Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon... Salut les extraterriens! Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Ils proposent des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Invité du jour. Salut Jeff.
Salut, comment tu vas?
Bah super bien. Un petit peu stressé, je t'avoue, en arrivant ici, c'est la première fois que j'enregistre dans un endroit où il y a autant de technologie, je crois, tu vois.
Et si peu de lumière.
Et aussi peu de lumière. Tu t'es dans ces conditions là quand tu pilotes, quand tu testes?
Ouais, alors tout le temps on est là, donc du coup on est dans le simulateur. Ouais. Et depuis quelques années maintenant dans le monde du sport automobile, on utilise de plus en plus ces simulateurs et c'est là où on y prépare toutes nos courses. Donc on passe 2-3 jours avant chaque course pour les préparer. Donc par exemple si on va à Monaco, la course à Monaco, on a sur l'écran on a le circuit qui est totalement scanné. Donc la moindre bosse, le moindre mètre, centimètre est vraiment très détaillé. Et on fait tous les tests qu'on a à faire, que ce soit des tests châssis, que ce soit des tests moteurs, que ce soit des tests de course, s'entraîner sur Sur des simulations de safety car, sur des simulations de qualification, sur des simulations de course. Donc on a un gros programme qui est en général tout le temps le même, circuit après circuit, de manière à ce qu'on arrive sur les courses le mieux préparé possible.
Ok. Il ressemble à quoi ce programme?
En général, on passe la première matinée à découvrir le circuit ou à se remettre en tête le circuit. Il y a toujours mon coéquipier qui est avec moi, donc il y a toujours une matinée où c'est à savoir qui va terminer avec le meilleur chrono de la matinée. Donc à chaque fois que je passe son chrono, il monte dans la voiture, il bat le mien, et puis après du coup je suis obligé de remonter derrière, et puis il y a personne qui veut lâcher. Au bout d'un moment, les ingénieurs ont dit ok les gars, on perd notre temps là, donc on va commencer le programme. Et ensuite on a des programmes, donc ça, c'est ces tours là c'est des tours, on va dire, poussés. Et après on a des tours énergétiques où en course on n'est jamais réellement à fond, dans le sens où il faut en Formule E, c'est le principe de la Formule E, on n'est jamais on doit rouler évidemment le plus vite, mais tout en consommant le moins possible d'énergie. Ouais. Donc on a des map moteurs spéciales où à 300 mètres avant le frein, on lâche l'accélérateur, à 100 mètres avant, on appuie sur un autre paddle qui régénère l'énergie, et ensuite on freine. Et ces courbes de décélération là sont différentes d'un virage à l'autre en fonction du moment où on est dans la course. Et donc on a pas mal de tests sur quel est les moments où on doit lifter pour que ce soit le plus efficace possible. Ensuite, on a des simulations de qualif, donc avec un map moteur différent, on a plus de puissance. Okay. Et ensuite, on fait des simulations course. Et ça, on fait ça à peu près sur 2 jours.
Ok. Je voulais te demander, parce que tu vois, ça fait quand même un petit moment que toi tu roules, même depuis toujours, je crois. Il y a un mythe qui dit que t'as tourné un volant avant de faire tes premiers pas. Je sais
pas un mythe, toi. C'est vrai.
Mais on va en parler juste après. Mais est-ce que j'imagine qu'il y avait peut-être pas ça il y a 10 ans, 15 ans, ou peut-être moins, tu vois. Est-ce que toi, c'est une partie que t'aimes, cette partie de simulateur, et cette partie où j'imagine tu dois apprendre beaucoup de choses, beaucoup de contacts avec l'équipe, beaucoup de cartes mentales aussi, j'imagine. Toi, c'est une partie que t'apprécies?
Non, c'est pas réellement une partie que j'apprécie. C'est malheureusement une partie qui est devenue obligatoire. Mmh. Aujourd'hui, on peut plus arriver, surtout en Formule 1, on peut plus arriver sur une course sans avoir fait de simulateur. Dans d'autres catégories comme la Formule 1 ou le championnat du monde d'endurance, moi, je pourrais me permettre de pas faire de simulateur et pas du tout en subir les conséquences en week-end de course. Mais en FE, le week-end est tellement court, tellement compact, tellement rapide qu'on est obligé d'arriver en étant surpris, parce qu'on n'a qu'une demi-heure d'essai libre la première séance, la deuxième séance une demi-heure, et ensuite on a directement la qualif. Et bien souvent, étant donné qu'on roule sur des circuits en ville, s'il y en a un qui se crache dans le mur, on a 20 minutes de drapeau rouge et on a plus que 10 minutes d'essai. Donc ça nous laisse très peu de temps pour nous les pilotes à s'adapter au circuit, et surtout aux ingénieurs de bien régler la voiture. Donc c'est une obligation aujourd'hui en Formule 1 que de faire du simulateur. Et c'est pas quelque chose qui m'enchante le plus. Vous voyez, on est dans cette boîte noire, dans cette cave noire, sans lumière du jour pendant 2 jours. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais après, voilà, ça fait partie du travail. Donc on le fait bien volontiers, sachant que ça peut nous aider à gagner.
Ouais, bien sûr. Non, mais écoute, en tout cas, merci de nous accueillir, et merci à Auriane d'avoir organisé ça. C'est plutôt là, on est plongé dans ton univers. Je peux comprendre que ça soit à la fin, l'ambiance doit être un peu pesante, quoi. Au bout de 2 jours, t'as envie de sortir et d'aller faire, de voir un peu de bitume. Je peux le comprendre.
Un peu d'herbe surtout.
Ça va. Il y a un
ça
peu
va,
de verdure
dans
autour.
Un parc, on est, c'est vrai, c'est pas mal.
Ok. Bon, on a fait une petite digression, mais normalement, comme je te disais, on aime bien commencer par l'enfance. C'est mon biais, tu vois. Comme j'ai échoué, j'ai envie de savoir un peu pourquoi toi t'as réussi. Et la première question que j'ai posée vraiment à tous les athlètes, tous les invités qui sont passés sur ce podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
De tout type de sport ou de mon sport automobile?
Vas-y, fais-moi les deux, si tu les as.
Premier souvenir de sport automobile, en fait, il est tellement jeune que je le vois sur les photos, mais j'ai du mal à m'en rappeler. Je devais avoir 4 ans, je crois. Okay. C'était la première fois que j'ai eu un kart. Je me rappelle avoir eu peur du moteur qui démarrait, le bruit me faisait peur. C'est pour ça d'ailleurs maintenant je suis très content de rouler en électrique, ça fait plus de bruit. J'avais un peu peur en F1 quand on avait les V8 qui sifflaient derrière notre dos.
Sérieux, ça te stresse un peu le bruit?
Non, plus du tout. J'adore le bruit maintenant, mais tout petit, je m'en rappelle que ouais, ça m'effrayait, avant de monter dans le kart, j'avais peur, quoi.
OK.
Et mon premier souvenir de sport, c'était peut-être la toute première course que j'avais faite, mais c'était pas vraiment une course, c'était une course démonstration pour les mini-cartes, donc des petits de 7 à 10 ans, sur la piste de mes parents, et course que j'avais gagnée. Et ouais, je me rappellerai comme si c'était hier où toutes les personnes m'avaient demandé, mais t'as mangé du lion ce matin? Et effectivement, j'avais mangé les céréales lion. Donc j'ai mangé du lion, et je sais pas, c'est une petite anecdote dont je me rappelle, mais c'était la première course, et je me rappelle surtout que c'était impossible que, même si c'était ma première course, que je la perde, surtout chez moi, sur la piste de mes parents. Donc je crois que j'étais un peu agressif avec deux trois autres jeunes pilotes, mais d'où la question, est-ce que t'as mangé du lion?
T'as toujours eu l'esprit de compète comme ça? C'est un peu ce qu'on dit de toi quand on regarde des interviews, ou même tu vois, quand d'autres pilotes ils disent ouais, Jeff, il a toujours envie de gagner, quoi. C'est le compétiteur par excellence, parfois aussi avec le mauvais côté de d'être un mauvais joueur, hein. Enfin, franchement, je connais pas de champion, en tout cas, qui soit pas mauvais perdant. Mais toi, ça a toujours été le cas, ou ça s'est construit avec le temps?
Non, ça a toujours été le cas, et c'était un peu chiant pendant mon enfance, parce que alors, si je jouais, par exemple, j'aimais bien jouer au foot. Alors, j'ai jamais été très bon, mais j'aimais bien le foot. Quand je jouais au foot avec les camarades d'école, bon, j'étais mauvais perdant, mais ça allait, quoi. J'arrivais à dormir la nuit. En revanche, dès qu'on se faisait un foot en stage équipe de France ou avec les autres pilotes, là, c'était la guerre, quoi. Je pouvais pas perdre, en fait. C'était horrible. Je préférais mettre des tacles et tout ça que de me prendre un but ou.
Ok.
Et c'était un peu frustrant, quoi. Enfin, c'était pas facile à vivre. Et je pense que, bon, ça, c'est dans le sport, mais dans plein d'autres domaines, que même à l'école, en fait, fallait absolument que j'ai les meilleures notes. Fallait que je sois le premier de la classe. Et pour ça, j'avais souvent, fallait que je fasse tout pour y arriver. Mais j'avais aussi la carotte de mes parents, surtout de ma mère, qui m'a toujours dit, voilà, si t'as des bonnes notes à l'école, tu peux continuer à faire du kart. En revanche, si t'en as pas, il y a pas de karting. Et puis mon père, il avait pas grand chose à dire. elle a mis une fois en place cette menace. Effectivement, elle m'a vendu un kart, je crois, parce que j'ai dû tricher à l'école, ou j'avais dû avoir un mauvais carnet de notes, je me rappelle plus, mais en tout cas, elle rigolait pas, du coup, donc fallait que je sois bon à l'école.
Ok. Elle rigolait pas avec la triche non plus, déjà. C'est bien pour les valeurs, en tout cas.
Ouais, bien sûr.
C'est quoi le pire truc que t'as fait à cause d'une défaite?
Ouais, j'ai dû casser des choses, je pense.
C'est quoi? Il y a cassé un verre, il y a cassé une assiette, il y a cassé une voiture. C'est...
Non, casser une voiture de course, non, ça a jamais été, ça m'est jamais arrivé. Enfin, ça m'est arrivé, mais sans le faire exprès. Enfin, un accrochage dans une course. Mais je crois que je me suis cassé, je me suis fait mal à un os de la main, en revanche, dans un in-lap où j'étais tellement énervé, j'ai tapé toutes mes forces contre le volant ou contre la coque. Une coque en carbone comme ça, tu les fais pas trop mal, quoi. Et je me suis fait mal à la main, ouais.
Okay.
Ça, c'était un peu con.
La coque a pas eu mal, mais toi un peu.
Ah non, la coque, elle a absolument rien senti. Moi, j'ai eu très mal, ouais.
Ok.
J'ai jamais expliqué d'ailleurs pourquoi j'avais une main en bleu énorme.
J'ai cru comprendre aussi que dans les catégories jeunes, t'étais assez grand. T'as grandi un peu plus vite que la moyenne, et que ça t'avait un peu porté préjudice dans ta progression. J'ai du mal à comprendre pourquoi, en quoi être trop grand quand t'es jeune, c'est un problème. Moi, au tennis, j'étais trop petit, j'ai eu une croissance tardive, et j'aurais rêvé d'être à ta place, tu vois.
Mais tu l'as eu, la croissance, ou pas?
Ouais, ça a fini par arriver. Non, ça va.
Désolé, t'es trop facile, désolé.
J'approche les 1m78, ça va, tu vois, je m'en sors pas trop mal.
Non,
mais avant, moi, j'étais le plus petit de la classe, j'étais au premier rang à côté de la prof, le plus petit garçon et tout, je vivais très mal. Donc,
Alors, dans les années minimes, donc c'est-à-dire de 10 à 12 ans, ça se passait très bien. J'ai gagné le chemin de France, je gagnais pas mal de courses. Et après, dans la catégorie junior, donc de 13 à 15 ans, j'avais déjà presque ma taille d'aujourd'hui, 1m83. Et c'est un gros problème, parce que le centre de gravité, en fait, un karting, le plus bas ton centre de gravité est, le mieux le comportement du châssis et du kart va se porter, en fait. Surtout que les voies arrière étaient des voies assez étroites, et c'était réglementaire, en fait. On pouvait pas élargir les voies. Donc, c'est-à-dire que t'as un peu le problème inverse en karting que ce que tu peux avoir en monoplace, c'est quand t'as trop de grip, et ben tu pars en deux roues un peu dans tous les virages et tu passes du coup moins vite. Donc j'ai eu 2-3 ans de traversée du désert assez galère, où évidemment tout le monde oublie un jeune qui gagne quand il a 10-12 ans, tout le monde oublie qui il est, et je passais complètement aux oubliettes pendant ces 2 années et demie.
T'as douté à ce moment-là?
Oui et non, enfin ouais, forcément tu doutes un peu parce que tu te retrouves à vraiment plus faire un podium et à disparaître dans les profondeurs des classements, donc c'était pas, et surtout que les autres pilotes qui roulaient avec moi dans ces catégories-là, qui sont restés un peu plus petits, ben eux ils gagnaient des courses, ils gagnaient les championnats d'Europe, mais j'en faisais rien quoi. Et il y a eu d'autres moments difficiles aussi où j'étais qualifié pour le championnat d'Europe en junior, je devais avoir 14 ans. Et avec moi et mon père a pris la décision, enfin le championnat d'Europe était au Portugal cette année-là. Et il avait pris la décision de qu'on fasse pas la course parce que ça allait coûter trop d'argent et que il préférait que on achète un nouveau kart et qu'on se concentre sur la catégorie supérieure qui allait probablement être un peu plus facile pour moi. Et pendant le championnat d'Europe, j'étais en train de discuter de distribuer des prospectus pendant 3 jours à une fête foraine à côté de Saint-Germain avec mes parents pour la piste de kart de mes parents. Donc c'était des moments difficiles. Tu perds confiance, forcément ta famille qui est ton premier supporter perd un peu confiance. Mais dès la première course dans la catégorie supérieure qui s'appelait ICA, avec les voies plus larges, avec une motorisation plus puissante, là ça s'est redevenu à la normale quoi. J'étais tout le temps sur les podiums, tout le temps sur les premières lignes, à faire des pôles et à gagner des courses, des championnats. Donc ouais, tout s'est remis un peu dans l'ordre.
Ok. Ouais,
mais tout le monde m'avait oublié par contre.
Ça fait mal.
Ouais.
mais je peux le comprendre. Ouais. Et t'as tout de suite su que tu voulais être pilote?
Ouais, j'ai tout de suite su que je voulais être pilote. En revanche, absolument pas de monoplace ou de Formule 1. Pour moi, mon objectif et mon rêve, c'était le karting. Quand j'étais petit, j'avais des posters, mais de pilote de kart, pas de pilote de F1.
Okay.
Je regardais même à peine la F1 quand j'étais petit. C'était que le kart. Et même jusqu'à tard, même jusqu'à 16 ans, je me voyais mal passer à un monoplace. Alors que c'était l'âge où il fallait commencer à faire le changement, mais dans ma tête c'était pas du tout opéré. Et pour moi, il fallait que je continue en karting. Et j'ai eu une offre de la Fédération française du sport auto pour passer en monoplace. C'était la Formule Campus, la formule de promotion de la filière qui est basée au Mans. Et moi, j'avais pas vraiment envie de faire une formule de promotion. C'était un peu un step down par rapport à ce que je faisais en karting. Et donc du coup, on a regardé de passer directement en Formule Renault 2 litres. Mais les saisons, déjà à cette époque-là, ça coûtait pour faire le championnat d'Europe, ça coûtait 500 000 euros.
Oh.
Donc malheureusement, le sport automobile est connu pour être probablement le sport le plus cher pour arriver à devenir professionnel. C'est pas comme au tennis, on achète son abonnement, les voyages pour aller à droite à gauche, son coach, ses raquettes, ses paires de tennis. C'est pas
une voiture en plus. Et tout ce qui va avec.
Ouais, c'est malheureusement ça bloque pas mal de jeunes talents à arrêter le sport automobile à cause de moyens financiers, ce qui est très dommage. Bon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de filières qui existent pour aider ces jeunes pilotes. Beaucoup d'équipes de Formule 1 ont des programmes de détection. Donc ça, c'est top. Donc on pouvait pas se permettre de faire une saison en Formule Renault 2 litres, donc il fallait absolument passer à la Formule Campus. Et c'était pendant plusieurs années, je dirais pendant 4-5 ans, c'était à chaque année, c'était make it or leave it quoi. C'était si je gagnais le championnat, peut-être que j'avais une chance de monter un échelon en plus, mais si je le gagnais pas, c'était sûr que je rentrais à la piste de mes parents et puis je faisais un peu de karting et je travaillais avec mes parents. Surtout que
ça
j'ai dû.
Ça a toujours été comme ça, la jeunesse, tu vois, de toujours. Tu vois, c'est ton père, un entrepreneur qui. Ok, on joue all-in, poker.
Mon père est déjà un peu comme ça parce que, à l'origine, il a toujours été fan de sport automobile. Il a voulu être pilote, mais comme beaucoup de personnes, les moyens financiers l'ont bloqué. Peut-être un peu le talent, quoique mon père était
Allez, était quand même. Tacle pour papa, si tu nous entends.
Désolé papa, si tu regardes. Mais non, il a clairement pas eu les chances s'il voulait devenir professionnel. Donc il est parti dans la médecine et est devenu ingénieur en médecine. Il avait inventé un compteur de plaquettes sanguines pour une grosse société américaine. Et il a décidé de tout vendre, de vendre ses compteurs de plaquettes sanguines. Et puis il a rencontré ma mère et il a décidé de créer une piste de karting sur un terrain qui lui appartient même pas, qui est aujourd'hui la plus grosse piste de kart au monde.
Okay.
Donc c'était un peu, oui, all-in aussi. Il a commencé tout petit et son rêve c'était de créer cette piste de kart et pouvoir aider des jeunes pilotes.
Qui est à Cergy, c'est ça?
À Cergy Pontoise, c'est exactement. Sur l'aérodrome. Et il a voulu créer cette piste de kart pour donner la chance à des jeunes pilotes d'un jour de devenir pilote de F1. Donc il avait fait des grosses opérations tout autour du Val d'Oise où il se déplaçait avec les kartes et il se déplaçait dans les communes et sur les centres sur les parkings de centres commerciaux. Il organisait des courses, il prenait le vainqueur de chaque commune et il organisait une grande finale à qui il donnait une bourse pour faire une saison entière en karting dans son équipe.
Incroyable.
Donc il a fait ça plusieurs années. Et après, je suis arrivé.
Pas que pour toi.
Non. Il avait commencé ça. J'étais pas né. J'étais pas né. Donc, il y a pas mal de pilotes qui sont sortis d'ailleurs de cette filière que mon père avait créée et qui ont été des pilotes professionnels. Aucun n'est arrivé en F1, mais ils sont néanmoins pilotes professionnels.
Ouais, c'est déjà bien.
Ouais.
D'ailleurs, tu vois, c'est une question que je voulais te poser, qui est pas forcément évidente à poser, mais ton père et ta famille, c'est vraiment en tout cas, on sent que vous êtes passionné, qu'il y a un besoin de transmission et qu'il y a un besoin de faire grimper la jeunesse et de donner des cartes à tout le monde. Mais comme tu l'as dit, il y en a beaucoup qui abandonnent pour l'argent, tu vois. Et on peut avoir un peu l'image, tiens, de la Formule 1 où c'est les fils de milliardaires. Enfin, il y en a quelques-uns, faut le dire.
Bien sûr. Ouais.
Mais comment, moi, la question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu le ressens jeune? Tu vois, parce que des fois, quand on est gamin, on n'a pas du tout conscience, tu vois, du poids financier qu'il peut y avoir, et de, tu sais, d'un certain privilège aussi, tu vois. Moi, j'avais mon père tous les week-ends qui m'accompagnait en voiture au club de tennis les soirs. Des fois, il me payait le taxi et tout, et je sentais qu'il y avait des gars du club, même tu sais, qui pouvaient pas forcément, tu vois. Et c'était, j'ai mis du temps à me rendre compte du privilège, quoi. Je sais pas pour toi, mais
J'ai mis du temps et je m'en rends compte encore aujourd'hui de plus en plus de tous les efforts considérables que mes parents ont fait. Et je pense que non, j'avais absolument pas conscience de ça quand j'étais petit et ils ont voulu, je pense, à souhait, m'en préserver. Et de pas que eux aient à penser à ces problèmes-là, mais pas moi. Et moi, que moi, j'ai uniquement à me concentrer sur mon pilotage et sur ma carrière et sur gagner des courses. Eux se souciaient du reste. Mais, pour en revenir à l'histoire que je racontais tout à l'heure, donc quand je suis passé en Formule Campus, mon père avait une ou deux voitures qu'il a vendu pour pouvoir me payer la saison, et c'était l'année où fallait tout donner parce que c'était soit je me faisais repérer par une équipe de Formule 1 à l'époque, il y avait que Red Bull ou il y avait que Renault qui avait et Toyota qui avait des programmes pour les jeunes pilotes. Donc il fallait absolument que je me fasse repérer par un de ces programmes-là si je voulais continuer en monoplace, parce que sinon c'était sûr qu'on pouvait pas continuer. Et donc championnat que j'ai gagné et grâce à ça, j'ai eu un test offert par Red Bull au Portugal. Et là pareil, une fois de plus, on a préparé ce test et puis on a dû faire beaucoup de journées dans les vraies Formule Renault qui coûtaient déjà assez cher. Donc il a revendu sa deuxième voiture pour pouvoir préparer au mieux ce test et qui ce test finalement était encore beaucoup plus important que la saison parce que c'était à ce test-là que j'allais savoir si j'allais être pris dans le Red Bull Junior Team ou pas. Donc on a tout donné, on a tout misé sur ce test-là. Mon père avait installé, les simulateurs n'existaient pas à l'époque. Il avait fait installer dans son bureau un ordi, des écrans, un volant, des pédales et tout ça pour que je puisse apprendre par cœur le circuit d'Estoril là où j'allais rouler. J'étais pas allé. Et puis finalement, donc j'ai réussi ce test et j'étais pris dans la filière Red Bull. Et à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai réellement compris que j'avais une chance d'arriver en F1 parce que il suffisait juste que je gagne et Red Bull allait s'occuper du reste. Donc c'est là où j'ai décidé d'arrêter l'école. Ma mère, malheureusement, ma mère à ce moment-là n'avait plus son mot à dire parce qu'elle savait que elle savait que effectivement il y avait une chance en or et qu'on pouvait pas s'y mettre à moitié quoi. Je pouvais pas le faire à moitié, sinon ça aurait pas marché.
Tu ressens de la pression à ce moment-là? Enfin, je pense que là c'est le haut niveau, les caméras, la gloire,
À ce moment-là, non, pas du tout. Et je ressens le contraire de la pression, ce qui a failli me coûter très cher. Je ressens le fait d'être intouchable et puis d'être le meilleur au monde et d'avoir réussi, de m'être vu arriver. Et puis tu prends la grosse tête. Et je me suis fait cette première année où je me suis fait découper par mes coéquipiers. Et ça s'est très mal passé avec Red Bull, dans le sens où deux courses avant la fin, donc le docteur Helmut Marko, qui est le patron de la filière Red Bull, m'appelle très froidement en me disant « Si tu fais une saison de... You're having a shit season. If you don't make a podium in the last two races, you're out. » Et puis il raccroche. Et là, la pression, ouais, là, elle est arrivée. Heureusement, j'ai fait les deux podiums qu'il m'a demandé sur les deux dernières courses. Donc il m'a donné une dernière chance, refaire une autre saison dans ce championnat. Championnat qui s'est très bien passé, je fais vice-champion avec pas mal de problèmes, donc pour lui, il considérait que c'était gagné, donc il me fait passer dans la catégorie supérieure qui était la F3 en Angleterre, mais là, il a voulu un peu tout changer, mon cocon familial, mentalité, il a voulu me faire partir vivre en Angleterre dans une équipe anglaise et que je retire un peu mes racines françaises et que j'allais découvrir d'autres méthodes de travail. Et je pense que c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver parce que là, cette année-là, c'est là où j'ai vraiment, où j'avais plus du tout la grosse tête et juste la rage de vaincre et de gagner, quoi. Donc ce championnat que j'ai gagné, je crois que je l'ai gagné à la mi-saison et puis je pense que c'est à partir de cette saison-là où le vrai rêve de F1 est devenu réalité.
Ok. T'as besoin de douche froide, toi, pour rebondir derrière?
Tous les matins, j'en prends une.
Ah.
J'adore. J'adore.
Alors, est-ce que tu fais partie de la team, je les appelle les faibles, désolé, mais qui fait chaud et ensuite qui passe au froid ou tu t'attaques direct par le froid?
Non, je suis les faibles.
Je savais que j'allais trouver un petit point faible.
Je suis les faibles. Ah, désolé, après, en revanche, je fais beaucoup de bains glacés.
Ok.
Mais la vraie glace, quoi, genre à 3 degrés, où tu restes une minute, t'as les orteils en feu, tu les sens plus, tu sors, t'as du mal à marcher. Ça, j'adore.
Ok.
Mais comment... je le fais quand même à la sortie du sauna.
Pourquoi tu le fais, pourquoi tu t'es mis là-dedans? C'est quoi? C'est tu te sens bien? C'est pour le récupération?
J'adore la sensation que ça me donne. Je l'ai commencé déjà il y a longtemps parce que j'ai eu que des coachs finlandais quand j'étais de mes débuts à Red Bull jusqu'à la fin en F1, dont un docteur.
J'ai pas fait le lien, ouais, effectivement.
Ouais. Dont un docteur qui s'appelait Aki Insa, qui était le docteur de pas mal de champions du monde de F1 et une des plus grandes personnes que j'ai jamais rencontrées dans ma carrière. Et tous les hivers, on allait en Finlande pour des entraînements. Et c'était magnifique. C'était, bon, on voyait que 1 heure ou 2 heures de soleil par jour. Le reste, on s'entraînait et puis il faisait nuit. Et le soir, on avait notre rituel. On faisait ça pendant 1 heure ou 2 heures. Ils creusaient un trou sur le lac gelé. Et puis, on commençait par le froid. Ensuite, on allait au sauna 15 minutes. On retournait dans le froid. Ça pendant 2 heures. Et on terminait par le froid.
Après ça, tu dors bien.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'ai l'impression que tu sens plus ton corps. Enfin, t'as l'impression de marcher sur un nuage. C'est extraordinaire. Et puis, du coup, j'ai toujours aimé les bains gelés depuis ce moment-là. Okay. Et je trouve que c'est bien aussi mentalement de se donner un peu des objectifs. T'es en souffrance, t'es en train de dire ok, je sors. Et c'est cette petite voix dans ton cerveau que t'arrives à entraîner en disant non, tu restes encore. Et ouais. Je trouve que plus cette petite voix, elle gagne de l'importance dans ton cerveau, plus t'es solide mentalement, je trouve.
Ouais, je suis d'accord. Mais tu sais, c'est Tony Robbins, tu vois, qui c'est le coach en développement personnel américain, le grand gourou.
Ouais.
Bah lui fait ça, il met ça dans tous ses bouquins et il te dit, moi je commence 10 minutes ma journée comme ça tous les jours, parce que si je commence par le pire truc, la pire sensation, tu vois, au réveil de rentrer dans un bain glacé, après il a la sensation de qu'il est imbattable quoi, qu'il est intouchable, et effectivement je pense que ça muscle le mental quoi, comme on dit. T'as d'autres routines un peu étranges ou farfelues que le commun des mortels pourrait trouver farfelues, que tu fais aussi?
Non, je pense pas, non.
C'est déjà pas mal.
Je pense pas.
2 heures de sauna dans la glace.
Ah, ça, je le fais que quand j'étais en Finlande. Après, j'adore toujours le sauna, bain glacé, c'est ma passion. Ouais, dès que je peux le faire, je le fais.
Ok. Je voulais te poser la question aussi parce que, pas plus tard que hier, j'étais avec Myriam Nicole. Je sais pas si tu vois qui c'est. Elle est double championne du monde de VTT de descente. Donc tu sais, c'est pas.
Ah ouais, elle a gagné cette année, non?
Non, cette année, elle s'est fait une commotion cérébrale. Du coup, elle est.
Elle a gagné quand la dernière fois?
Elle a fait 2019, 2021. Là, elle a pas pu s'engager sur 2023.
D'accord.
Et elle est, la coéquipière de Amaury Piron, qui fait la même chose à côté avec les hommes et qui est une vraie machine de guerre aussi. Qui s'est brisé les cervicales et qui est revenu et qui est champion du monde après. Mais du coup, Myriam, tu vois, on en parlait avec elle. C'est comment récupérer, tu vois, d'un sport aussi nerveux dans lequel t'as besoin d'être aussi concentré, où le cerveau, il doit être à 100 à l'heure, je pense. Comment est-ce que tu récupères après, tu vois, un grand prix ou un week-end de course, pour, tu vois, que le cerveau redescende, les émotions redescendent. T'arrives déjà à dormir,
t'arrives à dormir. Mais je trouve que t'as pas grand chose à faire. Je pense que c'est surtout, il faut s'habituer et s'habituer à vivre dans la douleur. Enfin, dans la douleur, je parle pas de la douleur physique, mais la douleur mentale. Donc, et cette douleur mentale, ça va être le stress, ça va être la non-réussite, ça va être les voyages, ça va être la fatigue. Et je pense que on est obligé de vivre avec et c'est une question d'habitude et, surtout qu'on passe d'une course à une autre, à une autre, à une autre, à chaque fois dans des catégories différentes, parce que je suis engagé dans le championnat du monde de Formule 1, mais aussi dans le championnat du monde d'endurance. Mmh. Donc c'est à chaque fois une équipe différente, un stress différent, des voitures complètement différentes et des objectifs différents. Donc c'est difficile. Enfin, il faut mettre voilà sa casquette pilote de Formule 1, la retirer, arriver avec tout sourire sur la course de wake avec sa casquette wake, et puis après repartir avec sa casquette Formule 1. Et ça pendant toute une saison, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais je pense que, je sais pas, c'est un peu comme si t'es sous la glace, t'as un trou et puis tu dois sortir de l'autre trou. T'es au milieu de là, tu te dis pas bon bah je fais demi-tour, je casse la glace. Non, tu peux pas la casser. Non, tu peux pas se questionner. Tu continues et puis tu sors de l'autre côté. Donc je me mets souvent dans des tunnels en fait pendant une saison. Donc ouais, je pense que c'est plus difficile pour mon entourage que pour moi.
Ouais. Toi, t'es dedans, tu dois switcher. Enfin, t'es un peu en, j'ai envie de dire sans mauvais jeu de mots, mais que t'es un peu en pilotage automatique, quoi.
Ouais, c'est totalement ça. T'enchaînes, ouais, quoi. Totalement ça.
Ok. Une autre question, un peu dans le même genre, que je voulais te demander, c'est comment est-ce que tu gères la pression, dans le sens où t'es celui de l'équipe qui est au centre des projecteurs, t'es sur la piste, t'es celui qui a la voiture et le travail en fait de tout le monde entre les mains. Donc il y a beaucoup d'attentes sur toi, tu vois, j'imagine. Est-ce que t'essayes de te couper un petit peu, tu vois, du bruit qui peut y avoir autour de toi et notamment des émotions, tu vois, des autres qui peuvent potentiellement t'affecter, tu vois.
Ouais, tu t'en coupes totalement.
Ouais.
Ouais, tu dois faire abstraction de tout ça.
Même jeune, t'y arrivais?
J'ai peut-être un peu plus de mal plus jeune, alors qu'il y a beaucoup moins de pression. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qui se travaille tout au long des années. C'est un travail aussi que j'ai eu avec pas mal de coach mental.
Ok.
À faire de la sophrologie, à faire du travail sur, ouais, sur soi-même, au niveau mental. Et aujourd'hui, je pense que c'est même pas quelque chose auquel tu réfléchis.
Ouais.
Tu penses pas.
Ouais. Et tu penses que c'est une qualité obligatoire pour être pilote? de se couper les autres.
Ah, pas pour être pilote, pour tout sportif. Pour tout sportif. Et je pense qu'il y a quelque chose sur lequel c'est difficile de se couper, c'est quand la pression monte lors des grands événements sportifs, que ce soit une finale en Formule 1, que ce, enfin une finale du championnat sur laquelle on gagne ou on perd le championnat du monde, dans le cas de finale de grandes compétitions sportives, que ce soit au tennis ou que ce soit dans le football, n'importe quel sport, il y a souvent deux types d'athlètes en général qui sont tous les deux aussi bons parce qu'ils n'arriveraient pas à ce niveau-là d'être en finale de grandes compétitions. Mais il y en a qui se sentent un peu contraints par cette pression et donc du coup ont du mal à performer. Et il y en a d'autres qui, au contraire, cette pression-là les pousse et leur donne des ailes en fait. Ça, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui se travaille ou pas, mais j'ai de la chance de faire partie, je pense, de cette deuxième partie où plus j'ai de pression, plus il y a d'attente derrière moi, mieux j'arrive à performer.
Ok, t'aimes l'impression. C'est le.
Ouais, je pense qu'elle est extrêmement importante cette pression. Et t'as de la pression négative comme de la pression positive. Je pense qu'il faut tout faire pour se mettre de la pression positive sur les épaules. Et la pression positive, c'est voilà, t'as gagné une course, bah il faut absolument que tu gagnes la deuxième. T'es dans les trois premiers du championnat, il faut tout faire pour gagner le championnat. Ça, c'est cette pression positive et c'est cette pression aussi qui arrive à faire travailler toutes les autres personnes qui sont autour de toi parce qu'on n'est pas tout seul dans la voiture. Mmh. On a une équipe de 50, 100 personnes qui sont derrière, ouais, qui travaillent tous les jours pour essayer d'améliorer la moindre petite chose qui va te faire gagner un dixième ou deux dixièmes. Et ça, c'est fédérateur. Après, t'as la pression négative dans laquelle il faut essayer de, non pas de faire abstraction, mais de se retirer de cette situation qui est, par exemple, t'as une mauvaise course, deux mauvaises courses, trois mauvaises courses, les gens commencent à se dire t'es plus très bon, ton équipe commence à se dire ok, peut-être qu'il faut le remplacer l'année prochaine, peut-être qu'on va lui casser son contrat, peut-être qu'on va pas le renouveler. Et là, quand on rentre dans ce vice là, c'est difficile d'en sortir, et ça peut vraiment bloquer, des athlètes.
C'était arrivé, toi, de rentrer dans des spirales négatives?
Ouais, en F1.
Ouais.
En F1. Ouais.
T'étais malheureux? À ce moment-là,
malheureux, c'est un grand mot, non. J'étais quand même pilote de F1. Mais quand j'y étais, effectivement, tu vois que le bout de ton nez et tu prends pas vraiment de recul sur ta situation. Donc ouais, tu te sens misérable, même si ça devrait pas l'être. Mais c'était des moments difficiles, des décisions ont été prises qui n'étaient pas forcément justifiées ou justifiables. Et qui évidemment n'est pas dans mon sens. Et ça m'a un peu abattu. Et je pense que j'avais pas la force mentale que j'ai aujourd'hui et la confiance que j'ai en moi pour oublier tout ça et puis me remettre dans une bonne spirale. Mmh. Et je pense que la chose la plus importante pour tout sportif, tout sport confondu, c'est de loin le plus important, c'est la confiance en soi. Mmh. C'est la confiance en soi parce que c'est ce que tu dégages, c'est ce que les autres voient de toi. Évidemment, il faut être talentueux, tu peux pas dire que t'es le meilleur si finalement t'es mauvais. mais si t'es bon et que t'as une confiance en toi surdécuplée, il peut rien t'arriver en fait. Mm. Il peut rien t'arriver. Et puis même si tu fais une course, deux courses mauvaises, en fait cette spirale négative dont je parlais auparavant, en fait t'y rentres jamais. En fait, elle est même pas dans ta tête. C'est impossible qu'on te vire, c'est impossible que la mauvaise chance continue parce que de toute manière t'es le meilleur, parce que de toute manière t'as déjà gagné plein de courses, plein de compétitions. C'est sûr que la roue va tourner et que tu vas regagner. Mmh. Et finalement tu restes toujours dans cette spirale de pression positive.
Ouais. Ben, c'est marrant parce que là j'ai un bouquin de préparation mentale et en gros ils expliquent que la confiance c'est cette capacité à pas s'identifier au résultat, tu vois. Tu t'identifies à ton process. Ok, tous les jours je pilote, tous les jours je m'entraîne, tous les jours je fais de la prépa mentale, tous les jours je fais de la sophrologie, tous les jours je prends mon bain glacé. Ça, j'en doute pas. Je suis sûr que c'est le process pour gagner. Et que si tu commences à t'identifier à tes résultats, là, ta confiance, elle peut s'ébranler. Tu vois.
Dans les deux sens, parce que tu peux ne pas faire le bon travail, sortir tous les soirs en boîte, tous les week-ends, faire n'importe quoi, pas prendre soin de ton corps. Bâcler ton travail de compréhension sur la Formule 1 en particulier, Et puis parce que par des concours de circonstances, t'as la meilleure voiture à ce moment-là, et puis t'es en confiance, t'arrives à bien piloter, tu gagnes des courses. Le fait de gagner, c'est peut-être la pire chose qui puisse arriver, parce que du coup, tu prends en confiance par rapport à ta victoire. Et tu te dis que tout ce que tu fais à côté, forcément, c'est bien. Sauf que le jour où les autres ont une meilleure voiture, où tu commences à te faire battre, et que là, tu te dis putain, je gagne plus et, et j'arrive plus à m'identifier à rien du tout, parce que d'une, je gagne plus et puis je fais de la merde à côté. Là, ça peut être très mauvais. Donc, je pense que c'est un super point. Je pense que il faut avoir la confiance, elle doit être bâtie sur le travail effectué. Évidemment, on peut sur les résultats, parce que si tu fais tout le travail et que ton coéquipier qui a la même voiture te détruit tous les week-ends, là, il faut. Il faut changer quelque chose, quoi.
Ouais. C'est impitoyable un peu votre univers quand même. Entre pilotes et tout, des fois vous êtes durs. Là, on voit effectivement dans la série Merci Netflix, tu vois que c'est psychologiquement pour vous les pilotes, c'est la cage au lion, quoi. Vous êtes on parlait du lion tout à l'heure, mais il faut l'être, quoi. Il faut être un spartiate, quoi. Y a pas des moments où t'as un peu envie de tout plaquer ou juste dire ok les gars on se calme quoi, ça reste du sport quoi, ou
non pas du tout?
Non, t'aimes
pas
ça
du tout? Ouais, j'adore, et c'est pas quelque chose qui me fait peur, et je sais pas comment c'est dans les autres sports, mais c'est un milieu complexe. C'est un milieu d'autant plus complexe, le sport automobile, que t'es pas uniquement jugé sur tes performances, mais t'es jugé tes performances en combinaison avec les performances de ta voiture. Et bien souvent, 70% de ta performance finale, elle est liée à ta voiture. Donc tout ce qu'il faut que tu fasses politiquement parlant, businessment parlant, pour te mettre au bon endroit, au bon moment, pour arriver dans la bonne voiture, c'est un travail qui est d'autant plus complexe que ça n'existe pas dans d'autres sports. Peut-être un peu le foot, parce qu'il faut les bons coéquipiers, il faut le bon coach, il faut tout ça, mais un excellent joueur de foot, peu importe dans l'équipe qu'il a, il brillera toujours et se fera toujours remarquer. Alors que un excellent pilote dans une voiture qui gagne pas une course, qui est incapable de gagner, personne ne le voit. Donc, il faut réussir à se mettre au bon moment, au bon endroit, à fédérer toute une équipe pour te donner la meilleure des voitures possibles et que tu puisses gagner.
Okay.
Donc c'est frustrant, parce que parfois il y a des week-ends, tu sais qu'avec ton équipe t'as fait le meilleur boulot possible, t'as fait une super course et puis tu finis que sixième, parce que la performance qui te manque, elle vient pas de toi, mais elle vient de la voiture. Et ça, c'est difficile à discerner.
Et t'arrives à te satisfaire de ce genre de résultat de ce que je comprends, tu vois, que t'as vraiment l'esprit de la gagne, t'arrives à te satisfaire d'une cinquième, sixième place où t'as donné le meilleur de toi et la voiture aussi?
Avec moi-même, oui. Avec mon équipe, jamais. Et j'arrive très bien à faire la différence, et ça, c'est important, entre le travail que j'ai fourni moi et le travail qu'a fourni l'équipe. Et si je fais cette course parfaite où je sais que j'ai tout bien mené, je pouvais rien faire de mieux ce week-end-là, je vais être satisfait avec moi-même, parce que je peux pas non plus me flageoler tout le temps et me fouetter parce que je gagne pas une course, ce serait absolument invivable. Mais en revanche, avec l'équipe, non. Enfin, si on est là pour gagner, finir sixième alors qu'on a tout fait de parfait, non, c'est tout simplement inacceptable, et on est obligé de faire des changements pour retrouver le chemin de la victoire. Et ça va de la même chose parfois. J'ai la bonne voiture qui me permet de gagner et je finis deuxième, là ouais, je vais m'en vouloir énormément, et puis je serai le premier à me foutre des claques dans la tête.
Ok.
Donc ça va dans les deux sens.
Ouais. J'ai envie de boucler un peu la boucle, tu vois, vu qu'on est dans le simulateur. Comment elle se fait ton arrivée dans l'équipe? Je sais pas, est-ce qu'il y a une petite anecdote, une rencontre, une envie perso?
Elle est complexe. Et c'est une réponse qui va durer un peu de temps, donc
on t'écoute.
On a du temps devant nous, mais ça tout démarre de la F1 où je suis chez Red Bull, j'ai jamais mon mot à dire, il faut que je sourie, il faut que je souris pas, que je dise ça, que je dise pas ça, et tu deviens un peu en robot, et puis t'en oublies un peu le plaisir de rouler, c'est ce qui s'est passé en F1. Je veux pas trop en revenir là-dessus, ça c'est mal fini, ça c'est pas fini comme ça aurait pu se terminer. Bref, je me retrouve en dehors de la F1. Évidemment, tu sors par la petite porte. T'as 3 ans avant la F1, où t'as l'habitude de tout gagner, tous les championnats, toutes les courses. Là, t'as 3 ans où tu gagnes absolument rien, tu fais absolument aucun podium. Évidemment, la voiture dans laquelle j'étais me permettait pas de faire un podium. Même n'importe quel pilote aurait pas pu faire de podium dans cette voiture. Mais bref, là n'est pas la question. Là, il s'est passé 3 ans sans réussite. J'arrive en Formule 1. Dans une équipe qui s'appelle Andretti, tout se passe tout de suite très bien. La première course, je fais la pole position. Je manque de gagner la course. J'ai la suspension qui casse dans le dernier tour. Je refais d'autres pole positions. Les courses passaient un peu moins bien, mais il y a des podiums. L'équipe est contente. J'ai commencé le championnat à la 3e course de la première saison de Formule 1. Et mon contrat était que sur une course, et dès la qualification, ils voulaient absolument signer mon contrat jusqu'à la fin de l'année.
Okay.
Donc, c'est bien passé. La deuxième année, je vais chez DS Virgin. Donc, j'étais déjà avec DS. Et cette année-là se passe pas bien du tout, ou avec le management anglais de cette équipe-là. On part un peu en fight. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est une année complètement catastrophique. Certes, il y a des podiums, mais il n'y a pas de victoire. Encore moins de victoires au championnat du monde. Et là, je commence à rentrer un peu dans une vraie dépression où je perds totalement confiance en moi. Je me dis que peut-être que le problème, il vient de moi. Je suis jamais dans la bonne équipe. Je suis avec un management qui me met des bâtons dans les roues. J'ai pas la bonne voiture. Donc j'avais 2 options à ce moment-là. Et puis je me suis secoué. Je me suis fait violence moi-même. Je me suis dit, soit tu continues comme ça, et puis dans 2 ans, ta carrière, elle est terminée, et puis tout le monde t'aura oublié. Ou soit tu prends le taureau par les cornes, et puis si l'équipe, ça te va pas, si l'infrastructure te va pas, si l'entourage te va pas, ben, tu le crées. Donc, je suis allé voir un de mes anciens sponsors, amis financiers, enfin, sponsor financier et amis, et je l'ai convaincu d'acheter une équipe de Formule 1, parce qu'à l'époque les licences coûtaient pas très cher, et je lui avais vendu que une licence achetée aujourd'hui à X vaudrait 3-4 fois plus dans 5 ans. Il m'a suivi, on a discuté avec 3-4 équipes, on a eu beaucoup de refus à chaque fois. Non, on veut pas vendre, ou alors on voulait vendre mais à un prix exorbitant, donc c'est pas passé. Donc on a tapé à la porte d'autres équipes, tout ça pendant la saison qui se passait extrêmement mal. Finalement on est tombé d'accord avec un propriétaire d'équipe qui était la moins bonne équipe sur le plateau, c'était Aguri, qui était d'ailleurs cette année-là dernier. Donc on rachète l'équipe. Très rapidement, on se rend compte que ça allait pas le faire avec notre nouvel associé, parce qu'il y a évidemment tous les running costs qu'il faut payer, et puis il voulait plus du pour 1€. Donc on a dû trouver un autre partenaire, et ce partenaire-là est un groupe chinois qui s'appelle CMC, CK Sport, qui investit beaucoup dans le foot, qui investit à City, donc qui connaît bien les investissements sportifs. Et à partir de ce moment-là, je leur ai dit, OK, on fait le deal ensemble, mais je suis à la charge de l'équipe, je décide des ingénieurs, je décide des pilotes, je décide de où est-ce qu'on s'implante, du constructeur avec lequel on va travailler. Ils m'ont donné carte blanche. Et avec cette carte blanche, je suis retourné voir DS. Je leur ai convaincu de lâcher Virgin pour venir avec nous. Donc, chose qu'ils ont faite en saison 5. Et tout a commencé à se remettre dans cette bonne spirale. On a commencé à gagner des courses.
On est en quelle année à ce moment-là?
Saison 4, saison, saison 3.
Ouais.
Donc, saison 3 se passe bien. Évidemment, c'est une nouvelle équipe. On a beaucoup de performances, on fait des pôles, on fait des podiums, mais il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choses qu'on rate. Mais c'est pas grave, le principal, c'est que la roue est lancée et une bonne synergie s'est mise dans cette équipe. Et puis, c'était une équipe voilà, super, on était pas là, mais on était juste à côté dans des bureaux sur une espèce de toit terrasse avec un énorme jardin. On faisait barbecue tous les jours, et puis on travaillait, on faisait 5-6 jours de simulateur avant chaque course, puis tout le monde se retrouvait là-bas. C'était les débuts de cette équipe là et c'était super, l'ambiance était extraordinaire. Et on gagne notre première course, qui était la dernière course de la saison 3. Et là, je rentre au garage et je dis, OK, l'année prochaine les gars, il y a plus une erreur, le championnat on doit le gagner et il sera pour nous. Et on a changé encore pas mal de choses, on s'est renforcé, on s'est professionnalisé, et l'année prochaine, l'année d'après, donc saison 4, on gagne le championnat. Mmh. Ensuite, saison 5, on rentre notre première année de partenariat avec DS, on gagne encore le championnat. Saison 6, c'est un nouveau pilote qui arrive, Antonio, c'était moi qui étais allé le chercher. Bon, je sais pas si j'ai fait une erreur, mais puisqu'il m'a battu, il gagne le championnat du monde. Mmh. Mais voilà, du coup, je suis passé d'une situation vraiment mauvaise où je voyais ma fin, le mur arriver très proche. Et par chance, j'ai réussi à renverser un peu la situation, à me mettre dans un cocon, dans une équipe qui aujourd'hui, voilà, ça fait 7 ans que je suis à cette équipe-là. Et ça va encore durer. Et on a gagné beaucoup de courses, beaucoup de championnats. Et je suis persuadé qu'on va continuer à gagner.
Ouais, non, et c'est très cool. En plus, tu participes fortement, tu vois, à la notoriété de cette catégorie, tu vois, qui est naissante et enfin plus trop maintenant, mais en tout cas qui pouvait l'être il y a quelques années et qui se démocratise et qui arrive à faire de belles choses. Donc c'était super chouette. Je vois que l'heure tourne et on a déjà raconté beaucoup de choses. On aura un peu bouclé la boucle. Une petite question quand même avant, parce que j'ai un petit doute maintenant. Est-ce que tu étais à Bangkok en avril ou mars 2013 pour un circuit? Alors je crois qu'il y avait sur Red Bull, il me semble qu'il y avait Vettel, il me semble qu'il y avait Romain aussi. Mais ça te dit rien?
Non, Bangkok, j'y suis allé qu'une fois dans ma vie, il me semble. En 2016 ou 17, je crois.
Ah donc c'était pas là. Je pense pas. Parce que et du coup t'as piloté à Bangkok sur l'espèce de terrain qui ressemble à un peu, enfin qui est plus leur stade un peu national et sur lequel ils peuvent faire un mini circuit un peu croisé. Tu t'as jamais fait?
Non. Ok.
Et ben ma mémoire m'a fait défaut. J'arrive à la toute dernière question. Enfin non, j'en ai deux. La première, c'est si il y avait un film que tu recommanderais à tous les enfants de regarder pour soit découvrir ta passion, soit juste être plus heureux, plus épanoui dans la vie. Tu leur recommanderais quoi à regarder?
Pursuit of Happiness.
Ok.
Avec Will Smith.
Très bon choix. Ouais. Ok. Pourquoi tu l'as aimé?
Parce que la vie est pas simple. On voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux la vie parfaite de tout le monde qui est complètement fausse, où il est difficile de discerner la réalité du faux, et que beaucoup de gamins sont déjà un peu en déprime parce qu'ils voient qu'ils ont pas la nouvelle dernière montre, la nouvelle Ferrari ou la belle voiture ou les voyages en business class ou les voyages sous les tropiques. C'est pas la vie en fait. Et tout le monde galère, tout le monde a du mal à se lancer dans la vie. Il y a des barrages dans tous les sens. Et je pense qu'il faut être plus fort que ça. Et je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui créent beaucoup de chamallows, on va dire. Et que la vie est difficile. La vie est magnifique, mais elle est difficile. Et je pense qu'il faut être fort, il faut être persévérant. Et je pense que c'est un film qui reflète parfaitement bien la réalité de la vie que vivent énormément de personnes, et que avec du travail, avec de la persévérance, avec de la confiance en soi, on y arrive toujours.
Très bon mot de la fin. Merci beaucoup. Et écoute, faut que je le regarde. Il date un peu, mais c'est vrai que c'est un excellent film qui remet les pieds sur terre. Toute dernière question que je pose, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. Et c'est de savoir quel athlète de haut niveau tu me recommandes d'aller interviewer pour parler un peu mental, parler bain glacé, gestion un petit peu du stress ou envie de gagner. J'ai manqué un peu de temps pour titiller quand même là-dessus, mais tu me recommandes d'aller voir qui?
Mais du coup, c'est quelqu'un qui m'a recommandé.
Écoute, ouais, c'est quelqu'un qui a un... Alors déjà, effectivement, il y avait Oriane qui m'avait contacté, mais la première fois que j'ai vraiment un journaliste qui m'a parlé de tout. Enfin, pour le coup, c'était un journaliste. C'était Yann Delplanque de Dans la boîte à gants, qui est mon très bon copain, mais dans l'automoto. Et
alors,
là, je fais tout le sport.
Alors, j'ai un sportif, mais qui est ancien sportif. Ça joue ou pas?
C'est très bon. On prend.
Mathieu Flamini.
Ah, trop bien. Qui a repris une boîte, là, en plus.
Exactement.
Ouais.
Exactement. Et je pense que c'est un super exemple pour tous les sportifs, qui ont beaucoup de réussite, qu'il y a une vie après le sport et que cette vie, elle est aussi extrêmement importante et que je trouverais ça top, que Mathieu puisse expliquer ça mieux parce que je pense que c'est probablement un des sportifs qui a le mieux réussi dans le business.
Ouais, je pense aussi. Et en plus, il a pas choisi la fois la plus sexy, la plus facile. Ouais. Dans l'industrie,
pétrochimie.
Pétrochimie, quoi. Ouais. Exactement. Donc, bah, écoute, je le contacterai de ta part. Merci.
Parfait. Je te donnerai son contact si tu veux.
Avec plaisir. Merci.
Avec grand plaisir. C'était super.
Et comme on dit chez moi, il y a que les montagnes qui se recroisent pas, donc je te dis à bientôt. Ciao.
Je la connaissais pas, cette expression.
C'est un truc de savoyard et de montagnard.
J'adore. Très vite.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.